Bonsoir. Cette semaine, j'étais dans un cours dans le cadre de la formation que je fais. Et cette partie des formations, c'est plus ou moins de psychosociologie qui concerne ce qu'on appelle la conduite des groupes. Et la formatrice a dit, à un moment, la discussion c'était qu'est-ce que c'est un groupe? Donc, combien de personnes? Qu'est-ce qui fait que 3 personnes c'est un groupe, etc. Quels sont les critères, etc. Et donc, il y avait différents travaux qu'on a faits, discussions, partages, etc. Et puis, à un moment, quand elle était en train de parler, elle a dit, mais en fait, le groupe n'a pas de réalité. Il n'y a que l'expérience des participants. Et elle regardait autour de la table et elle dit, c'est merveilleux, non? Et moi, j'étais mais enchantée par ça. Et il a fallu que je me retienne de dire, madame, c'est merveilleux, vous venez de parler de la nature de la réalité, de toute chose. Je n'ai pas dit. Et je ne suis pas sûre que mes camarades autour de la table ont senti comme elle ni comme moi, mais ça m'avait ébloui ce moment. ça, c'est très profond en fait, ça, et ça va très loin. Le groupe, c'est un concept groupe. Ce qui n'est pas concept, c'est l'expérience qu'on a ici maintenant, de ce qui est. Et c'est le même pour toute chose. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas. C'était hors sujet de dire qu'il s'agissait de la nature de toute chose. Mais. Et je me demandais, mais jusqu'où on peut aller avec ça? C'est une sorte d'enquête de plus en plus profonde dans toute chose. La tasse n'a pas de réalité, il n'y a que l'expérience de la tasse que j'ai de la tasse. On a plein de cons qui parlent de ça. Il y en a un qui le maître prend un bâton et il dit, si tu appelles ça un bâton, c'est pas ça. Si tu ne l'appelles pas un bâton, c'est pas ça non plus. Comment tu l'appelles? Et il y a un moine qui arrive et qui prend le bâton et qui le casse. Très content de lui. Et le maître lui dit, encore un stupide aveugle, un stupide moine aveugle. Toute la pratique pointe vers ça, disons. Mais ça pointe vers notre vie. On a cette idée que il faut faire autre chose, il faut se retirer de la vie, il ne faut pas s'occuper de l'argent, il ne faut pas s'occuper de travail, il ne faut pas s'occuper de nos relations, que ce soit amour, amitié, sexe, tout ça. Mais en fait, la pratique s'agit de vivre tout ça autrement. Hier, quand j'étais avec des réfugiés, encore une fois, leur donnant les habits, il a fallu qu'on change le système parce que c'était trop chaotique. Ils venaient tous à la fois au guichet, au comptoir, on a resté. D'accord. Donc on a fait une file d'attente. Il vient un par un, mais bon, on était 4 ou 5, donc on avait 4 ou 5 personnes à la fois. On essayait d'être très organisé, c'était quand même un foutoir, mais c'était un peu plus organisé. Et à un moment, il y avait un jeune homme qui était là et qui m'avait donné sa... Ils sont obligés, ils ont une carte. Donc, sur la carte, c'est marqué s'ils avaient déjà pris les habits. Et il n'avait pas. Et donc, il avait pas à tout. Ben, mais on n'avait pas grand-chose, c'est ça le problème. Et il était là, et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne sais pas si c'était en anglais ou en français, ou un peu communiquer comme on peut. Hein, mais... Et il hésitait longtemps, et puis il regardait autour. Il regardait ce que les autres prenaient. Ce que les autres recevaient. Et donc, quand tu voyais. Ah, chaussettes. Quand tu voyais que quelqu'un avait des chaussettes. Puis, il prenait les chaussettes. C'était des chaussettes neuves. Hein. C'était, je ne sais pas, Monoprix ou quelqu'un avait fait une donation de 500 paires de chaussettes, je ne sais pas. Et ils examinaient. Ils gardaient ça. Ils gardaient autour. Et. T-shirt. Et c'était vraiment, c'était très étrange. Et puis il regardait le t-shirt et puis non, il ne voulait pas ça. Il examinait très, tous, c'est ça qui est incroyable. Ils ne prennent pas le premier truc qu'on leur donne. Ils examinent, ils vérifient, si c'est trop large, ils ne veulent pas. Si c'est, ils veulent un truc avec un capuche, ils veulent un truc plus épais. C'est vraiment, c'est étonnant. Enfin, c'est pas étonnant. C'est ça qui est étonnant. C'est que dans un premier temps, on est étonné, et puis après deux minutes, on dit mais non, c'est pas étonnant du tout. Évidemment. Je trouve qu'ils sont même plus sérieux avec ça que moi je suis avec mes habits, d'une certaine façon. Je suis capable de mettre quelque chose qui est trop grand, ou qui est un peu. Qui est un trou dans mon pull, etc. Eux, ils veulent pas. Et il y avait une sorte de... Bon, il y avait ce jeune-là qui avait ça. Il y avait un autre qui voulait tout, qui voulait essayer tout. Il voulait savoir s'il pouvait avoir plusieurs manteaux, qu'il pouvait avoir plusieurs pantalons, etc. Et c'est, non, tu vas avoir un manteau, un pantalon, deux t-shirts, deux slips. Enfin, c'est, il y a des consignes. Et ça aussi, c'est compréhensible. Ils n'ont rien, et donc ils veulent prendre le maximum. Bon, il y a le soupçon que... La raison pour laquelle on marque, s'ils ont déjà pris, c'est qu'il y a le soupçon qu'ils prennent des trucs et les vendent dans la rue. Mais après tout, pourquoi pas? Bon, je ne vais pas leur demander ce qu'ils vont faire avec leurs habits. En même temps, il y en a qui n'ont rien du tout et qui...
Tout dépend du stock disponible aussi.
Exactement. Tu vois. Bon. En même temps, on ne veut pas qu'ils sont faire un commerce là-dessus, parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin et ils ne peuvent pas l'acheter. Donc bon. Mais au point où ils veulent le bain de bouche, il y a une donation de bain de bouche. C'est une bouteille de bain de bouche. Donc, tout le monde voulait ça. Je ne sais pas si ils vont tout utiliser le bain de bouche. Ou ils vont le vendre, je ne sais pas. je leur explique ce que c'est quand même, parce qu'ils ne savent pas. Parfois, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas lire en français ou en anglais. Donc, en même temps, je comprends. Et ça m'éclaire un peu sur le matérialisme de nos vies, que ce soit avec des choses, accumuler des choses. Quand tu n'as rien, évidemment, tu veux des choses, tu veux quelque chose. Quand il y avait des mecs qui n'avaient pas de chaussures, qui n'avaient que des flip-flops.
Mm-hmm.
Comment on appelle ça?
Les
tongs. Voilà. Et on n'a pas de chaussures. On attend une livraison, je ne sais pas, de Gosport qui livre 500 paires de chaussures, des trucs comme ça, parce qu'on n'en a pas. Et donc, ils n'ont rien. Il y en a qui, ils n'ont que ça, qu'ils ont sur leur dos et sur les pieds. Et donc, je comprends qu'ils veulent accumuler les choses. Mais nous, qui ont des choses, je rentre chez moi, je ferme la porte et soudain ça me frappe. Bah, moi, c'est pas du tout pareil. Eux, ils rentrent dans leur piole, là, leur chambre où il y a 4 lits. C'est bien chaud, c'est confortable, mais ils n'ont rien. Et ils ne savent pas où ils vont aller. C'est d'une incertitude. Quand je le vois, parfois, je dis, mais, oh là, mais ils ne sont pas du tout au bout de leur peine. Mais c'est... Il y a un gars qui... De temps en temps, je me demande d'où ils viennent. Il y avait un gars de Libye, un autre de Mauritanie, un autre d'Éthiopie. Mais le chemin qu'ils ont dû prendre, ces mecs-là, et ce qu'ils ont quitté, ce qu'ils ont laissé, etc. Et là où ils sont, là, c'est une précarité, mais sérieuse. Et ils, ce qui était étonnant, c'est qu'ils sont de super bonne humeur, ils rigolent. Ils sont super contents de discuter avec nous, de faire les blagues, etc. Parce que beaucoup de nos avis sont des trucs... ce qui reste, c'est des trucs gros ou tout petits. Et donc, il y en avait un, je sortais une culotte, slip, caleçon, je crois que c'était. Comme ça. On a rigolé. Et il y en avait un autre qui... un pantalon que quelqu'un lui a proposé, il disait à ma collègue, même mon grand-père dans son tombe ne mettra pas ça. Mais c'est rigolo. Et putain, mais c'est incroyable. Et donc moi je rentre chez moi, je ferme la porte et je me dis waouh, c'était un peu le vertige. Et quand même, je vais accumuler. Je vais accumuler des choses, des accomplissements, des formations.
Qu'est-ce que tu appelles des accomplissements ?
Devenir quelqu'un.
Ah.
Réussir à faire quelque chose, bien faire quelque chose, avoir l'approbation de quelqu'un, me sentir bien parce que j'ai aidé quelqu'un, enfin, accumulation. Et on vit dans une société qui est construite principalement sur ça, sur le matérialisme. Que ce soit physique, mais ça peut être manger, ça peut être accomplir. Il existe, et c'est Trungpa qui c'est très célèbre, a appelé ça le matérialisme spirituel. C'est-à-dire qu'on fait une pratique spirituelle parce qu'on va devenir mieux, on va être au-delà de nos problèmes, on va être meilleur que les autres, on va trouver la paix. On va être quelqu'un. Et quand on regarde dans notre pratique, le premier des préceptes, c'est d'essayer de ne pas tuer. Et vouloir quelque chose d'autre, être quelque chose d'autre, avoir quelque chose d'autre, être ailleurs, etc., c'est une forme de tuer ce qui est. Ne pas reconnaître et apprécier ce qu'il y a là, et donner vie à ce qui est là, ou apprécier la vie de ce qui est là. Et tout ce que ça implique, parce que pour avoir d'autres choses, il faut marcher sur les autres. Pour être quelqu'un d'autre, il faut nier ce qui tu es. On a parlé, c'était la semaine dernière, la semaine avant, on a parlé de gagner sa vie et sans le perdre, comme on dit. De gagner sa vie d'une façon équitable, sans faire mal. Enfin, c'est notre intention. Jamais su savoir. J'ai lu le petit livre qui a gagné le prix Goncourt. Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre? Non. Il s'appelle L'Homme. Tu as entendu parler de ça?
Non,
ouais.
Mais j'ai pas lu. Pas encore. Ouais.
L'Ordre du jour, ça s'appelle. Et c'est un petit livre, je sais pas si c'est 150 pages, mais terrible. Enfin, ce qui me frappe surtout, c'est combien le monde n'a pas changé depuis. Parce que ça commence avec les 24 plus grandes industriels, entrepreneurs dans les années 30 en Allemagne qui sont appelés à rencontrer Göring et Hitler au Reichstag, je crois que c'est 1937. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est terrible parce que ces mecs, ils sont tellement suffisants, ils sont tellement puissants et contents d'eux, qu'ils sont prêts à tout pour protéger ce qu'ils ont. Ils ont très peur des communistes et parce que les communistes vont menacer ce qu'ils ont. Et donc, Göring a su jouer cette carte. Et ils finissent par sortir leur chéquier et faire des chèques pour financer c'était les élections et à la suite d'ailleurs le Reichstag était fini, etc. Bref, peu importe. Mais et tous ces gens là les noms on les reconnaît parce qu'on a tous toujours des choses. Siemens, Krupp, toutes ces choses existent toujours. Je ne sais pas si c'est les mêmes familles qui tiennent ça. Hein. Toi, tu sais peut-être mieux que moi, Christine, hein, je ne sais pas. C'est les mêmes familles toujours ou c'est juste les noms qui restent?
J'ai aucune idée. Ouais.
Je pense que, bon, peu importe. Ce qui m'a surpris, mais ne m'a pas surpris, parce que c'est la même chose aujourd'hui. Pas uniquement avec les industriels allemands, je veux dire, c'est partout. Le même truc. D'accumuler, on voit bien avec toutes ces histoires de Paradise Papers et tout, on voit tout. C'est pas étonnant quand on découvre que quelqu'un est des gens, parce que tout le monde qui peut faire ses combines, il les fait. Et c'est que des gens très très riches qui peuvent le faire. Donc rien n'a changé en fait. Ça prend différentes formes, mais ça n'a pas changé. Le noyau de l'origine de ça n'a pas changé, évidemment. Et dans notre pratique, on est là, on essaie de regarder ce que c'est ce noyau. Quelle est l'origine de ça, de cette avarice? Qu'est-ce que c'est l'origine de cette... du grasping en anglais. Qu'est-ce qu'on dit en français? Saisie peut-être? Ouais, cette saisie. Quelle est l'origine de ce rejet? Quand on rejette l'autre, quand on rejette des choses en nous-mêmes, pour mieux construire notre image. Quel est le noyau de ça? Quel est le noyau qui fait qu'il y a ces réfugiés-là? Ça reste mon courant, ça. De quoi il s'agit, cette histoire? Et comment vivre donc? Il ne s'agit pas de ne pas avoir de l'argent. Il ne s'agit pas de ne pas avoir un appartement, une maison. Il ne s'agit pas de ne pas s'occuper de ses cheveux et de s'habiller et de s'amuser. Il ne s'agit pas de renoncer à être vivante. Il s'agit de vivre pleinement quand on a vu ce qui est à l'origine de cette problématique qui nous fait souffrir et qui nous fait faire souffrir aux autres, la souffrance aux autres. Et on voit bien que tout ça, tout cet matérialisme aggravé dans lequel on vit aujourd'hui, ça amène les problématiques s'étendre autour. L'écologie, la famine, tout le mal qu'on fait, ou le mal qu'on fait aux animaux. J'ai lu un entretien avec Mathieu Ricard l'autre jour. Je sais qu'il a écrit un livre sur plaidoyer pour les animaux, mais j'ai pas regardé. Mais j'ai vu l'entretien où il parlait de ça, des animaux, et ce que l'être humain fait aux animaux. C'est étonnant quand même. Il dit on est schizophrène. Soit on traite nos animaux domestiques comme nos enfants. Soit on porte leur peau, leur fourrure, on les massacre d'une façon industrielle pour les manger à l'excès, parce qu'on mange beaucoup trop de viande. Il a dit, je ne sais pas où il a eu cette statistique, mais il a dit si toute l'Amérique du Nord, si tout le monde partout dans l'Amérique du Nord, dans le Canada, Amérique et Mexique, pendant une journée, ne mangeaient pas de viande, ça permettrait de faire nourrir pendant un an 25 millions de personnes dans le monde. C'est incroyable quand même. Un jour sans viande et pendant un an, des gens pouvaient manger. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce calcul, je ne sais pas où il a eu cette statistique, mais c'est quand même un scientifique, donc j'imagine que je pense que c'est parce que il y a tout un enchaînement qui est autour de cette industrie de manger de la viande à l'excès. Il plaidoie pas du tout pour ne pas manger de la viande. Je pense qu'il est pas fou quand même, hein. pas aller jusque là, mais tout est une question de modération, disons. Et on ne vit pas du tout dans une société où la modération est prisée. La juste quantité, comme on fait en Orioki. C'est ça, Orioki veut dire ça. La juste quantité. Qu'est-ce qui est la juste quantité? Qu'est-ce qui suffit pour moi dans la vie? Quels habits? Quelle quantité d'argent? Quelle façon de vivre? Quelle nourriture? Tout ça. On peut tous poser cette question. Et ce n'est pas, comme ce courant que j'ai cité au début, ce n'est pas de nier le bâton, ni de s'accrocher au bâton, ni de le casser. Comme disait le maître Trungpa, le tibétain, le bodhisattva, qui est quand même l'archétype dans notre branche zen et bouddhisme tibétain, ce n'est pas qu'il ne s'occupe pas de lui-même, c'est qu'il ne s'occupe pas uniquement de lui-même. Et ça, c'est une grande différence. Il s'occupe de lui-même, mais il s'occupe des autres de la même façon. Y compris les animaux, y compris sa chaise, y compris ses chaussures, ce livre que j'ai lu cet été, le maître à Minneapolis que j'ai rencontré, raconte dans son livre que quand il était jeune pratiquant, débutant, il était un fanatique de zen, et il voulait le vrai zen, il voulait aller à fond dans le zen, l'éveil, etc. Et il est arrivé pour son entretien avec Suzuki Roshi. Et il disait, mais Roshi, qu'est-ce que je peux faire? Je veux... Enfin, Roshi lui parlait de je sais pas quoi. Ça ne correspondait pas à son idée de ce que c'était le zen. Il disait quelque chose du genre, Juste prenez soin de ce qui de toi, ou un truc comme ça. Juste prenez soin de tout, un truc comme ça. Et en partant, le gars, il s'est rendu compte que ses chaussures, il avait des vieux baskets tout crasseux, jeunes, qui étaient, il les avait enlevées à la porte avant de rentrer, un peu dans tous les sens, et les chaussures de Suzuki Roshi étaient bien alignées. Et il dit, il a fallu plusieurs années pour qu'il se rende compte que s'occuper de ses chaussures et de les bien ranger, c'était ça dont il s'agissait, que ce n'était pas autre chose que ça. Mais ça parle de beaucoup.
La première retraite qu'on a faite en Normandie chez Caroline, j'avais je ne sais plus du tout ce qu'elle était ce livre, mais je ne l'ai jamais oublié. C'est quelqu'un qui disait que quand il claquait une porte, il réouvrait la porte et il la refermait doucement.
Tu as lu ça dans un livre? Un livre que tu avais, ou c'était
un
livre qu'elle avait?
Oui. C'était un livre aux ânes.
Oui.
Et ça m'a beaucoup marqué, et je le fais à proprement parler comme ça, ou sur d'autres choses. Et c'est le soin à donner dans le fait de fermer une porte doucement, sans la claquer.
Ah oui.
Et c'est ça, bien. Et puis il y a Thich Nhat Hanh aussi, que je n'ai jamais oublié non plus, qui avait parlé de se brosser les dents, en vraiment être très très conscient de la façon dont on brosse les dents. Et souvent, quand je me brosse les dents, je pense. Voilà. Puis après, ça se décline sur plein d'autres choses, mais
Oui, parce que ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on expédie. Mm. Non, il faut le faire. On sait qu'il faut le faire. Mm. Enfin, il y a des gens qui sont très névrosés, hein, ils le font méticuleusement, mais... Bah oui. J'étais à une retraite au Portugal une fois, il y a des années et des années de ça. Où c'était avant qu'on faisait Orioki. Et donc on mangeait à table. Et après quelques jours, il y avait quelqu'un là, je n'ai jamais plus revu ce type, je ne sais même pas qui c'était, qui a dit, je ne sais pas si c'était à la fin du repas ou avant, je ne sais pas, mais il a dit... Je ne suis pas contente parce que je trouve qu'on fait trop de bruit quand on s'élève avec nos chaussures. Non, chaise. Et je pense qu'il avait raison. On ne prêtait pas du tout attention quand on... comment on dit ça
on
recueillait
sa chaise.
Quoi?
On recueillait sa chaise.
Oui. Quand on était assis à table et puis...
Ah, d'accord.
Et puis on les remettait ou on les sortait. Et... Je crois qu'il avait raison. Hein. J'ai apprécié qu'il fasse cette remarque. Et c'est pour ça qu'on a toute cette... On a peu de rituels ici, mais le peu de rituels qu'on a, ça, c'est ça l'idée. Ça sert à ça. D'être attentif à toute chose, à ce qui est juste ici, ce qu'on fait, la façon qu'on bouge. De toute façon, quand on rentre, on sort, on se lève. Et je vois, par exemple, quand on arrive ici, c'était mercredi. Non, le mardi soir, il y a un groupe qui est là. Et donc, il défait les choses. Et donc, quand on vient le mercredi, c'est étonnant. Je pense qu'il pense qu'il le remet. Mais ce n'est pas du tout. C'est un peu jeté dans tous les sens. Rarement il y a un truc au milieu. Les chaises n'est pas remis dans le même endroit. Il y a les coussins qui ne sont pas vraiment là-dessus, etc. C'est étonnant.
Et pourtant, c'est une activité de pleine conscience.
Oui, quoi. C'est ça. Mais ça ne fait pas...
Quelle activité?
Oui, c'est l'activité le mardi soir. C'est quelqu'un qui enseigne la méditation,
le
mindfulness.
D'accord, ok.
Ouais.
All right. All
Mais je pense que dans leur façon de faire, ça, c'est pas, il ne s'agit pas de ça. Hein. Non. Il s'agit ça de pleine conscience de ce qui est à l'intérieur de soi. Mm. C'est pas aux alentours. C'est étonnant. Ça m'étonne. Et maintenant, on va voir si, parce qu'on a préparé une. Papier qu'on va donner à chaque locataire avec une photo. les choses, c'est une espèce de checklist, éteindre les chauffages, laver les vaisselles, les ranger si vous avez utilisé, remettre la pièce comme ça avec la photo. Donc on va voir. Donc c'est quelque chose à regarder dans sa vie. Est-ce que je suis attentif à quoi je suis attentif et à quoi je ne suis pas attentif? Parce qu'on est tous attentifs à certaines choses et on n'est tous pas attentifs à d'autres.
Je pense que c'est la même chose que tu parlais de chaussures. Que souvent quand je parle de la façon dont tu accueilles ce que je te dis, ce que je te disais quand on est en entretien, c'était que tu accordais autant d'importance. Si je parlais de la façon dont je mettais mes chaussures, donc je laissais mes chaussures, ou de quelque chose de fondamentalement important dans ma vie, tu avais le même niveau d'importance.
Attention.
Tu accordais le même niveau d'importance. Mmh. Ouais. Mmh. Voilà. Et tout à l'heure, quand tu as parlé des chaussures, j'ai repensé à ça. C'est ça, c'est que je parle de quelque chose de vraiment de vital dans ma vie, ou de la façon dont je parle, dont je laisse mes chaussures, tu as le même niveau d'écoute et d'accueil et d'importance. Quoi. C'est aussi important que je te parle de comment je laisse mes chaussures ou que je te parle de quelque chose qui est fondamentalement grave dans ma vie. Voilà.
C'est mon intention.
Mmh. Mmh. Ben, ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est accueillir l'importance que l'autre donne au, à un moment donné sur quelque chose, quel que soit ce quelque chose. Mm-hmm. Donc c'est ne pas avoir de regard sur le quelque chose, mais c'est porter tout son regard sur la façon dont l'autre apporte sa concernation par l'autre chose.
Ça nous amène un peu au début, c'est-à-dire que c'est comme le groupe n'a pas de réalité intrinsèque, indépendant, il n'y a que l'expérience des participants. Et c'est un peu la même chose. Ce qui est important, c'est l'expérience. Ce que toi, tu amènes, tu parles de ton expérience, de quelque chose, c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Qu'il s'agit des chaussures ou de vélo ou de travail ou je sais pas, on sait.
Enfin, cette idée de groupe, quand on dit que quand on pratique dans un tendo par rapport à pratiquer seul chez soi, il y a quelque chose d'autre qui est là. Il y a une présence de chacune et chacun. Il y a une espèce de communauté, de solidarité silencieuse, de présence, de connexion. Donc il y a une...
C'est ça la réalité du groupe.
Oui.
C'est ça.
C'est quand même une...
En dehors de ça, le groupe n'existe pas.
Oui. Donc il y a quand même une forme d'existence, même si c'est chacun qui...
C'est l'expérience qui
à l'intérieur.
Oui, c'est ça.
Il y a quand même une forme de... comme une réalité de groupe, mais qui est vécue par chacun, c'est ça ?
En dehors de tout ce que tu avais énuméré là, il n'y a pas de groupe. Le groupe en soi n'est pas sans ça.
Sans chacun qui le vit intérieurement, c'est ça ?
Ou ensemble. Il n'y a pas de groupe, enfin, sans le contenu, si tu veux. C'est juste un mot groupe, en fait. Sangha par exemple, on parle de Sangha. C'est un concept. La réalité de ça, c'est le vivant, partage, activité, vécu des membres du Sangha. Mais en dehors de ça, le Sangha n'existe pas. D'où l'importance de participer, parce que s'il n'y a pas d'activité, le Sangha n'est pas.
Donc quand le groupe est présent, le groupe existe quand même, c'est ça ? Et dès qu'il est plus présent, il n'existe plus. C'est ça ou...
Mais, enfin, nous, chacun va rentrer chez soi aujourd'hui. Et le Sangha existe parce qu'on est de notre expérience de ça. C'est pas une question d'exister ou pas exister dans le sens quand on n'est pas là, ça n'existe pas. C'est pas ça. C'est que la notion même de Sangha est un concept vide de réalité, comme tout concept d'ailleurs. Il n'y a que l'expérience de ce qui est. Quoi ?
Non, rien.
Qui est ? Et donc ça nous remène à cette histoire de matérialisme, parce que on a des moments où on se rend compte de ça. Tout le monde a les expériences de ça, qu'ils se rendent compte que il n'y a rien là. Et c'est terrifiant. Ça peut être terrifiant. Et donc on passe outre très vite. Et où on va essayer de remplir, on va essayer de se soulager en regardant que quelqu'un nous aime, enfin, mangeant quelque chose, se distraire en regardant un film, je sais pas, tu vois, mais se saoulant de gueule, je sais pas, mais tout le monde a ses expériences parfois. Et donc, dans la pratique, ce qu'on cherche, c'est, ok, on reste ici, on laisse venir ce qui est, rien, on ne va pas intervenir dans ce quoi qu'il arrive quand on est assise. Et il y aura des moments comme ça. Et on reste avec, sans essayer de... Parce qu'on est dans cette optique de « je ne vais pas intervenir, je vais juste être là ». Donc on se rend compte que l'expérience de ça n'est pas terrifiante comme on pensait. On peut survivre à ça. Et au contraire, ça nous ouvre les horizons. Ça. Parce qu'on n'est pas juste cette idée limitée qu'on avait de soi, toute contrainte et en sécurité. Donc, ce qui va pour le groupe, ça va pour moi, pour le jeu. C'est pareil. Et ça nous ouvre la porte à une richesse insoupçonnable, insoupçonnée. Qui n'est pas étriquée comme notre expérience habituelle de qui on est. D'autres questions, commentaires. J'ai un peu l'impression que ça a pris une tournure dramatique. C'est pas dramatique du tout, hein. C'est pas dramatique du tout, hein. C'est vraiment la joie de vivre dont il s'agit. Il s'agit pas du tout de néant, de vide. C'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est vraiment la joie de vivre pleinement. D'apprécier ce qui est pleinement. Et là, quand on a goûté à ça, on se demande pourquoi on s'est torturé pendant tant de temps. On sait pourquoi, mais... Prenez soin de vous.
Un fast.
Parfait.